Salut les smarts et salut les marks et bienvenue sur Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Comme d'habitude, on a regardé et on va résumer et commenter les shows de la WWE pour vous. Je suis l'amiral Armbar et aujourd'hui, pour parler donc du Monday Night Raw du 12 février qui prépare la chambre de l'élimination, avec moi, et bien du coup, Raphaël. Comment ça va, Raphaël?
Bah écoute, ça va très bien, c'est notre petit catch-up de la Saint-Valentin, qui va être placé bien sûr sous le signe du love, de l'amour,
exactement,
envers ce sport noble.
Ouais, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour la Saint-Valentin que de regarder du catch et écouter, regarder des gens qui font un podcast de catch. Voilà, c'est peut-être le moment de faire découvrir à votre dulcinée et ou dulcinée et eux qu'est-ce que le catch, hein. On ne sait jamais, peut-être qu'elle ou il appréciera, on verra bien. En tout cas, c'est un épisode d'Euro, comme on va le voir, qui était plutôt sympa, avec pas mal de choses, et on commence, donc on est d'abord, où est-ce qu'on est? Eh bien, on est en Californie, hein, donc à San Jose, California, et c'est le 16 fois champion du monde, John Cena, You Can See Me, qui arrive, et John Cena qui va, en fait, un peu, pendant quelques minutes qui m'ont paru assez longues, un peu chouiner, hein, il avait un peu pleuré dans les chaumières, en disant que lui... peut-être que cette fois-ci, il n'aura pas de route à WrestleMania s'il gagne pas ce match Elimination Chamber, parce que vous comprenez, c'est compliqué quand même pour lui d'être à WrestleMania, etc. Hein, donc on a un peu de mal à le croire. Heureusement, il est interrompu par le Miz qui débarque avec Bo Dallas et Curtis Axel, hein, donc le Miztourage. Et le Miz qui lui dit à ce bon John Cena qu'on n'est plus en 2013, mais qu'on est en 2018, que c'est l'année du Miz. Peut-être que Cena a passé trop de temps à Hollywood, là on confond les rêves et la réalité. Mais Cena ne gagnera pas de toute manière l'Elimination Chamber, et même s'il a gagné, il ne gagnera pas contre Brock Lesnar, parce que Cena c'est le père fondateur de Suplex City, voilà, en référence au fait que Brock Lesnar avait pulvérisé un petit peu, s'était affronté contre Cena lors de son retour à la WWE récent. Et donc Miz dit en gros que lui gagnera contre Brock Lesnar. Contre Brock Lesnar, pardon, puisque lui, il arrive à aller au-delà de ce que fait Cena, il arrive à franchir la limite, la frontière tout simplement, entre le face et le heel, hein, le Miz utilisera tout ce qu'il a en son pouvoir pour gagner contre la bête, ce que ne peut pas faire Cena. Alors Cena, forcément, hein, un seul loyalty respect comme un bon face, top babyface accompagné, il book ses propres matchs, hein, c'est un peu son pouvoir spécial. Il dit, écoute, très bien, toi et moi maintenant, et celui qui perd rentre en premier dans l'Elimination Chamber. Le Miz qui fait, attends, je réfléchis. Là, forcément, Bo Dallas et Curtis Axel agressent John Cena. Et puis finalement, le Miz lui dit, très bien, j'accepte ton challenge, pas de problème. Une fois que Cena est bien ratatiné au sol et ne bouge plus, sur ces entrefaits arrive le general manager, hein, qui s'est rappelé qu'en fait c'était lui qui faisait les matchs et qui dit ok, je suis d'accord pour ce match, pas de souci. Par contre, Bo Dallas et Curtis Axel, vous êtes virés des abords du ring. Donc s'ensuit un match qui commence avec un John Cena qui est au sol, ratatiné. Un peu surprenant que Kurt Angle, en tant que general manager face, dise pas de problème, on y va dans ces conditions. Le Miz essaie de tomber, mais Cena s'en sort. S'ensuit quand même un long match plutôt disputé. Le Miz se sortira d'un attitude adjustment. Cena se sortira bien entendu aussi d'un skull crushing finale. Il y avait eu aussi différentes prises de soumission pendant lesquelles le Miz a lutté et a atteint les cordes. Au final, Miz tentera un skull crushing finale depuis la seconde corde, mais c'est John Cena qui fera un maximum attitude adjustment ou un avalanche AA. Bref, un super attitude adjustment depuis les cordes pour la victoire. Donc le Miz rentrera en premier dans ce match de l'élimination. Et on sait déjà depuis la semaine dernière que c'est Elias qui rentrera lui en dernier. Donc cette intro, ce clash annoncé entre Cena et le Miz et ce match, ton avis sera sur cet opener pour eux?
Moi je suis assez d'accord avec ce que tu as un peu décrit pour le début de John Cena. J'ai trouvé la promo très très mauvaise, ouais. Honnêtement, le refrain du vétéran qui est en train de vieillir et de perdre sa place, ça allait bien au Big Show, mais là c'est, enfin, on n'y croit pas du tout, quoi. John Cena qui nous dit ah, j'aurais peut-être pas de route pour WrestleMania.
Mec, ouais. t'envoies un mail à Vince et t'es en main event si tu veux, quoi. Arrête.
Ouais, et puis c'est pas comme si l'an dernier il était dans un gros match, ouais. Il était justement en tag team contre le Miz avec sa femme. Ouais. Voilà. Non, j'aime vraiment pas trop ce positionnement de Cena là depuis quelques mois où pendant des mois il est pas là, il s'en fout. Et puis quand il revient, t'as l'impression qu'il joue sa vie à tous les matchs. C'est un peu un drôle d'alignement. Et puis, en fait, en soi, j'ai pas été très intéressé par tout le segment. J'ai bien aimé ce que lui a répondu le Miz. Il y avait des tacles assez sympas. Bon, en soi, le match était un opener de Raw, donc c'était pas un mauvais match. Après, j'ai
Non,
trouvé que c'était une histoire.
il était plutôt bien disputé le match, hein.
Ouais.
Un peu finalement, je trouvais booké comme un match de Roman Reigns récemment où Reigns va galérer, ça va se sentir, il va se prendre des finishers, va kick out, l'adversaire va aussi kick out d'un finisher et finalement, là, Cena doit utiliser son super judgment comme il l'a fait contre Finn Balor il y a quelques semaines. Donc, du coup, voilà, on voit quand même qu'ils ont essayé de protéger le champion intercontinental qui est le Miz. C'est clair que bon, bah, il gagne clean contre, il perd clean contre Cena, mais on peut dire qu'à ce moment, c'est pas passé loin, on a pu y croire, ou du moins Cena a sorti l'artillerie des grands pay-per-view pour sortir le Miz.
Oui, c'est ça. Je pense qu'ils essayent de replacer Cena un peu au même niveau que tout le monde. Mais bon, il n'y avait rien de très original. C'est peut-être ce que je reprochais un peu. Cena contre le Miz, on l'a vu très souvent. On sait que Cena, si c'est clean, gagne tout le temps. Donc bon, cet enjeu de la première place, pourquoi pas? Ça m'a pas suremballé, mais c'était une ouverture de show.
Ok, donc on sait déjà pour le match d'élimination qu'on aura premier entrant le Miz et dernier entrant eh bien Elias. Et donc un peu notre fil rouge de la soirée, ça va être ce match seconde chance. Hein, on nous a annoncé un Fatal 4-Way ce soir pour déterminer le dernier entrant de l'Elimination Chamber, du moins le dernier participant à l'Elimination Chamber match. Donc on aura un Fatal 4-Way entre Woken Matt Hardy, Bray Wyatt, Apollo Fucking Crews et Finn Balor. Et donc on aura juste après ce match, un petit segment de Matt Hardy, donc qui dira encore que c'est pour accomplir cette destinée, que sur son chemin se dressent trois vaisseaux, Bray Wyatt, bref, les autres concurrents, et qu'il va transformer la chambre d'élimination en la chambre de la deletion. Et tout le long de la soirée, on aura plusieurs petites vidéos comme ça, des uns des autres. On aura Bray Wyatt, ben, forcément, hein, qui dira que, en gros, c'est lui qui va gagner, qu'il va gagner la chambre d'élimination pour la deuxième fois consécutive, hein, puisque rappelez-vous, l'année dernière, c'était lui qui l'avait gagné, et qu'une fois encore, il aura le monde dans ses mains. On aura la Tatus Worldwide, hein, qui sera avec Renee Young en backstage, donc du coup, Tatus qui demandera à Apollo Crews s'il va se faire DDT par Matt Hardy. Crews dira, bah non, il va créer l'histoire. Tatus lui demande s'il a peur du mangeur, du dévoreur de monde, bah non, Crews dira que Wyatt ne peut pas le digérer. Bref, voilà, il continue comme ça et au final, donc comment s'appelle cette espèce
Dana
de
Brooke.
Dana Brooke, merci, j'oublie son nom maintenant, les statisticiennes, hein, je me rappelle plus vraiment. Dana Brooke qui dit Cruz can't lose, ça peut faire un bon t-shirt. Non, on n'y croit pas 2 secondes. Hein, Cruz can't win, à la limite, ça rime pas, mais c'est vrai, mais ça marche pas. Et on aura aussi Finn Balor un peu plus tard qui sera en vidéo un peu selfie style comme ils font depuis quelques semaines en disant que grâce à Elimination Chamber, il récupérera le titre qu'il n'a jamais perdu. Bref, voilà un peu ces petites vidéos pour hyper ce main event du soir. Alors, pas forcément sur le vidéo, à moins que t'aies un truc à dire, mais plus en général sur cette nouvelle tendance de la WWE de faire des vidéos un peu en mode selfie. C'est quoi ton avis là-dessus? On avait parlé la semaine dernière avec Ringside, Hank, etc. Toi, je crois pas que tu aies donné ta petite piécette sur ce sujet pour ou contre ces vidéos mode selfie.
Alors moi j'étais pas là la semaine dernière.
Ouais.
En fait j'ai fait une semaine complètement sans catch la semaine dernière puisque j'étais à
D'accord.
l'étranger. J'ai même pas vu Catch Up. Donc je sais pas ce que vous avez dit, mais moi je suis pas très fan à vrai dire. Bon après j'ai jamais été très fan des petits segments. Disons que dans les segments backstage comme ceux qu'on a vu, le segment classique là de Titus Worldwide, des fois c'est souvent ça n'a aucun intérêt. Des fois c'est drôle. Là pour le moment j'arrive pas à trouver l'intérêt de ces espèces de vidéos Twitter là. Je trouve que ça casse un peu les kayfabes. En plus, c'est toujours un peu pourri. C'est toujours filmé dans le garage de la salle. Moi, ça me hype pas trop pour les matchs. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Je trouve qu'au contraire, ça dégonfle un peu les enjeux.
Ouais.
Je sais pas si vous.
Ouais, je comprends tout à fait. Bon, ça, chacun après son avis dessus. Moi, je suis pas forcément totalement contre, mais je trouve ça un peu mal maîtrisé. Surtout, moi, ce qui me dérange, c'est les textes. quand sur les vidéos, il y a les personnes, les
ah
acteurs
oui.
qui parlent, les catcheurs qui parlent, et en plus, ils mettent des espèces d'écrans comme ils font sur le Mixmax Challenge, en fait. Et ça, je sais
ouais.
pas, je trouve que ça. Je trouve vraiment que ça fait un peu trop. Ouais. Instagram, Snapchat
manga,
sur moi,
ouais.
ouais. C'est un peu dommage. Bref, on va avancer, puis on verra bien ce match Fatal 4-Way, qui peut-être ne sera pas un Fatal 4-Way, on verra ça plus tard, on en parlera en fin de podcast. Donc on continue, puisqu'on a backstage les Good Brothers, Anderson et Gallows, hein, qui parlent donc au sujet du Revival, avec qui ils sont en petite rivalité depuis quelques semaines, avec donc leur fameux nerd-o-meter, hein, leur jauge à nerd, hein, enfin on la voit en action, ce truc-là, donc voilà, en gros que connaître tous les tag teams depuis 1902, bah ça fait de toi pas des statting spécialistes, mais des gros nerds, voilà, donc là aussi, bah, c'est un bon exemple de ce que je disais à l'instant, on a leur phrase qui s'affiche en texte sur la vidéo, et je trouve ça un peu cheesy. Bref, on passe de suite à ce match, donc une revanche. Hein. Donc on a Gallows Anderson d'un côté versus Revival, donc un match pas très 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 long, qui débute de toute façon par une tricherie d'entrée des Revival qui vont aller choper le genou de Luke Gallows et la tête de Karl Anderson alors que les deux membres du Balor Club arrivaient sur le ring. Au final, on a Anderson qui fait un spinebuster pour un tombé de deux, et ensuite on a Dawson qui blind tag, hein, et le Revival donc fait leur shatter machine pour la victoire, donc victoire des Revival dans cette petite rivalité, même si c'est avec une tricherie bien entendu. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce repackage, de cette seconde vie donnée au Revival et donc au duo Gallows-Anderson?
Ben ouais, c'est ce que j'allais dire, j'aime bien cette petite rivalité parce que ça lance bien les Revival là depuis leur retour de blessure, et je trouve que bon, c'est mon point de vue, que ça, au final, c'est plus souvent les Revival qui gagnent que Gallows et Anderson, mais ça les met quand même bien en action, les deux,
bah, pas
les deux anciens Japon.
Je crois que c'est la première fois qu'ils gagnent là, les Revival, puisque
ah ouais.
au Road 25, ils avaient perdu. Ils avaient perdu
ouais.
contre Balor et Anderson, je crois, la semaine dernière. Donc ouais, c'est peut-être la première victoire là des Revival sur le Balor Club entre guillemets. Mais bon, on en est qu'au début, hein, je pense. Hein, mais ouais, c'est pas mal. Même si j'aimerais voir un peu plus d'unité, de cohérence et de cohésion au niveau du Balor Club. Là, par exemple, on avait Anderson qui avait sur sa veste un logo Balor Club, mais qui était très difficile à voir, hein, fallait faire gaffe. Mais bon, dans tous les cas, je trouve que c'est quand même plutôt sympa de donner un peu de temps d'antenne à ces deux équipes qui font des trucs bien dans le ring. Et je sais pas pour toi, mais moi ce soir, j'ai eu un peu l'impression de redécouvrir Karl Anderson sur le ring. Hein. Entre son spinebuster vraiment très bien exécuté et ses coups de pied le long des cordes à la japonaise très criés, je trouve ça assez cool. Petit moment de blanc de Raph, et bah du coup je vais enchaîner pendant que Raph nous rejoint. Donc on poursuit.
Oui, tu m'entends?
Ouais, c'est bon, je t'entends. Donc on passe maintenant à Kurt Angle en fait, qui vient tout simplement pour annoncer dans le ring, hein, donner des nouvelles sur deux points différents. Le premier point, c'est sur Ronda Rousey, hein, qui est arrivé donc du coup à la fin du Royal Rumble pay-per-view. Il annonce que dans deux semaines au pay-per-view Elimination Chamber, eh bien Ronda Rousey va signer en direct son contrat pour Raw. Premier élément. Deuxième élément, eh bien, il va donner des nouvelles de son fiston, hein, Jason Jordan, qui est blessé, donc il y a eu des radios, il doit être opéré du coup, donc grosse blessure de Jason Jordan, et donc il sera pas du tout prêt pour WrestleMania. Sur ce, eh bien, du coup, Seth Rollins débarque, hein, bon, après que Kurt Angle ait dit « Oui, je sais que c'est pas vraiment votre superstar préféré, Jason Jordan, mais c'est quand même mon fils, il est malade, il est blessé, vous devriez lui souhaiter un bon rétablissement », alors que la foule était plutôt contente de savoir que Jordan ne serait pas là à WrestleMania. Seth Rollins, donc, du coup, le partenaire de Jason Jordan débarque, et en gros, disant « Bon, ouais, bien sûr qu'il est désolé pour Jason, mais que lui maintenant il n'a plus aucun programme pour Mania, donc Kurt Angle lui propose de trouver un un partenaire de remplacement pour repartir à la chasse donc des titres par équipe, mais Seth le coupe en disant merci mais non merci. Maintenant c'est moi, je n'ai plus envie de faire partie de Raw, mais j'ai envie de redevenir Raw comme quand j'étais The Man. J'ai envie de partir retrouver le titre mondial comme je l'avais fait il y a quelques années à WrestleMania, sauf que là cette année bah, j'ai pas de Money in the Bank à encaisser, j'ai pas de match prévu. Ma seule possibilité c'est de pouvoir rentrer dans la chambre d'élimination, donc forcément le GM dit que ce serait pas juste par rapport aux autres, mais la dernière chose qu'il peut faire c'est demander au public, est-ce que vous public à San Jose, California, vous êtes d'accord pour que Seth Rollins intègre le Fatal 4-Way de ce soir et que ça devienne un Fatal 5-Way? Bien entendu, la population de Californie fait yes, 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 donc ce soir on n'aura pas un match à 4 mais un match contre 5 pour se disputer la dernière place pour l'Elimination Chamber match. Et donc du coup, Raph, cette promo de Seth Rollins qui revient sur la compétition en solo, ça te vend plutôt du rêve ou ça te laisse de marbre?
Ah non, ça me plaît bien. Alors désolé pour l'intervention d'avant, je sais pas, ça, Skype a dû un peu laguer, donc mais j'ai entendu ce que tu disais. Donc je suis d'accord avec toi, j'aime bien Karl Anderson qui catch. Et là, je trouve qu'ils ont... Alors, on ne sait pas trop hein, au final s'ils ont découvert vraiment la blessure de Jordan maintenant ou si en fait ils ont prévu un peu leur coup sur plusieurs semaines. Ouais, non, c'est vachement bien rebondi. Seth Rollins est motivé, il a claqué une belle promo. Non, moi ça m'a très vite. Il a suffi de pas grand chose, de 2-3 minutes pour que ça me remotive dans le personnage et que ça me donne envie de le voir. Bon, bah, je sais pas où, mais ça m'a redonné envie de le voir en solo.
Ouais, carrément. C'est vrai qu'on était un peu tous dubitatifs sur le Seth Rollins de ces derniers mois, même si le succès lui a souri avec ses ceintures par titre. Mais là, sur la promo, de le voir motivé comme ça, bref, c'était une promo qui était bien écrite et surtout très bien délivrée, qui donne vraiment envie de le revoir partir sur la compétition en solo. Voilà, je sais pas si c'est dû au fait qu'il a renoué avec son vieil amour, le Curb Stomp, hein, son finisher qu'il avait laissé tomber pendant longtemps et qu'il est peut-être très content de le retrouver et de plus faire simplement The Knee. Je sais pas, mais en tout cas, il a bouffé ses vitamines, cette release depuis quelques semaines et ça se voit ce soir encore une fois. Donc on verra bien son intervention dans le match qui sera donc le dernier match de la soirée. D'ici là, on a un autre match qui est celui de deux vieilles copines avec qui il y a un peu de l'eau dans le gaz. C'est bien sûr Sasha Banks et Bayley. Donc on voit que on nous montre que depuis une semaine sur Twitter, c'est un peu la guerre entre les deux, puisque elles se sont dites la semaine dernière que l'une pouvait battre l'autre sans problème, et donc c'est ce soir qu'elles vont voir si c'est le cas. Donc on a clairement bien sûr Bayley qui est accueillie comme une héroïne, hein, puisque c'est chez elle, hein, San Jose, California, donc forcément elle joue à domicile. Banks aura une attitude dans le match assez, encore une fois, un peu illiche, où elle va être très en contrôle de Bayley, très un peu en, pas en humiliation, mais en domination d'elle, notamment dans son attitude. Au final, donc, du coup, Banks aura Bayley dans un bank statement qui durera un petit moment. Elle essaiera de s'éloigner des cordes avec ses pieds comme elle fait, mais Bayley chope quand même les cordes. Au final, on aura donc Banks qui essaiera de faire un superplex sur Bayley, mais c'est Bayley qui fera en fait un Bayley to Bayley depuis la seconde corde pour la victoire. Donc victoire de Bayley à domicile. Les deux se regardent un peu avec un petit peu une hésitation. Bayley est un peu énervée de sa victoire, mais elle attend surtout la réaction de Banks. Banks, elle est là, elle regarde, elle est surprise, on ne sait pas trop ce qu'elles vont faire. Est-ce qu'elles vont se faire un hug? Est-ce que Banks va mettre une grosse gifle à Bayley? On ne le saura pas, puisque Bayley, à un moment donné, pousse Sasha Banks sur le côté et se fait rentrer dedans par Nia Jax, voilà, l'autre californienne, hein, du roster, qui débarque et qui fera un Samoa drop donc sur l'une et l'autre et repartira victorieuse et se fera interviewer sous titantron par Charlie Caruso. Charlie qui demande à Nia Jax pourquoi elle s'est interjectée dans une histoire qui la regarde pas. Eh bien, Nia Jax, si, bien sûr que ça la regarde, tout la regarde en fait. Hein. Les deux, la Banks et Bayley, ont fait des gros matchs contre Asuka les dernières semaines, mais elle, Nia Jax, elle aura fallu de quelques secondes pour qu'elle bulldoze Banks et Bayley. Et donc, du coup, une seule femme peut interrompre la invisibility streak, la suite de victoires d'Asuka. C'est elle, tout simplement. Donc, suite à ça, on aura, un peu plus tard dans la soirée, je crois, un package vidéo sur la streak d'invisibilité d'Asuka avec des chiffres, le nombre de matchs, etc. C'est d'ailleurs assez impressionnant, ce package. Hein. Ça fait un peu penser au package du Royal Rumble où il nous bombarde de chiffres. Mais là, c'est vraiment sur la suite d'invisibilité d'Asuka pour ceux qui n'auraient pas suivi NXT. Et c'est vrai que quand on regarde la vidéo, on peut que être convaincu de la terrible compétitrice qui est l'impératrice de demain. Donc voilà, un gros match entre Bayley et Sasha Banks. On continue à construire un petit peu la rivalité sous-jacente entre les deux et le heel turn aux petits oignons de Sasha Banks. Nia Jax qui déboule et qui met tout le monde d'accord. On nous hype un gros match pour l'Elimination Chamber entre Nia Jax et Asuka. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des scénaristes, la division féminine à Raw? Moi, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Toi, Raph, est-ce que toi aussi, tu es content de ce changement des dernières semaines ou tu es toujours mitigé sur nos chères dames de Raw?
Non, là, sur la soirée, c'était un très très bon match. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un si bon match féminin là, à Raw ou même en weekly. Non, je suis plutôt... Et je trouve que c'est...
T'avais vu le Asuka Banks il y a deux semaines ou pas?
Ah si, ouais. Oui,
ouais,
c'est
qui
vrai.
Était, je
oui.
trouve, personnellement, non, je trouve qu'il était au-dessus, mais...
Ouais, c'est vrai que ces dernières semaines, non, il y a eu pas mal de... Non, ce que j'aime vraiment beaucoup, et on va le revoir dans le deuxième segment féminin, c'est qu'ils nous foutent le premier Elimination Chamber féminin de l'histoire, mais c'est hyper naturel. C'est pas du tout surjoué comme ce premier Rumble où ouais. On arrêtait pas de nous dire « Vous faites l'histoire ». Là, c'est pour la compétition, quoi, et c'est bien... bon, le seul petit, c'est vraiment chipoté. Du coup, Banks et Bayley, elles ont leur place dans l'Elimination Chamber. Là, elles ont un match un peu sans enjeu, donc on comprend pas trop pourquoi c'est sur ce match-là qu'elles commencent vraiment à se tirer la bourre et à s'en vouloir. Bon, c'est le début, ça, je pense que ça va se décanter justement dans la chambre de l'élimination. Mais là, c'était un match. Pour du beurre, mais elles ont bien envoyé du bois.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment le côté pour... Il y a Sasha Banks qui est certaine, en fait, dans le personnage, qu'elle peut battre Bayley sans problème, et Bayley, tu lui fais, ben non, moi je pense que je peux te battre, et c'est là tout l'origine de cette mini-rivalité ou confusion entre les deux amies, les deux copines.
Ouais, par contre, j'aime décidément pas trop ces interviews... au bord du Titantron, là, ça fait tellement. Ça fait complètement pas spontané. C'est pas d'où elle sort, Charlie Caruso, mais Nia Jax, on savait même pas qu'elle était là, et hop, elle se fait interviewer en deux minutes, donc ouais. Ça fait le truc complètement scénarisé, quoi.
Ouais, c'est encore un des débats qu'on avait quelques semaines avec Ringside sur justement ces différents modes d'interview, entre l'interview selfie, l'interview dans le ring, l'interview au bord du Titantron. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'interview. Juste à la Gorilla Position. Il y avait 2-3 fois, ils l'ont fait. Quelqu'un, avant qu'il rentre dans l'arène, à la Gorilla Position, tu as René Young ou Charlie Caruso qui interview. Ils peuvent aussi le faire quand les catcheurs et catcheuses rentrent du ring à la Gorilla Position. Et je trouve que ça donne vraiment un petit côté backstage un peu plus réel. Surtout pour des interviews qui ne sont pas prévues. C'est-à-dire que tu n'as pas un décor, tu n'as pas 3 caméramans. Mais quand c'est un peu sur l'impromptu, je trouve que c'est un bon endroit pour les faire. En tout cas, voilà, moi, je milite pour qu'ils en fassent d'autres de ceci-là. En tous les cas, ouais, okay. les filles étaient bien, bien servies, je trouve, ce soir. On peut parler de la suite de ces dames. Hein. Il y a encore un autre segment. Donc, effectivement, backstage, on a Alexa Bliss qui est à côté donc, de Mickie James. Hein, donc, puisque Alexa Bliss, souvenez-vous, est venue au secours de Mickie James contre Absolution. Donc, Mickie qui justement demande à la championne pourquoi elle a sauvé et pourquoi maintenant elle doit faire équipe, en fait. Puisqu'il y a un match ce soir, Alexa Bliss et Mickie James contre Mandy Rose et Sonya Deville de The Absolution. Donc, en gros, ben, voilà... clairement, Mickie James comprend que c'est aussi pour se faire des amis pour Elimination Chamber. Il y a un peu ce truc-là. Ils repartent de leur rivalité, puisque les deux ont une histoire assez importante, puisque c'est Alexa Bliss qui a fait revenir Mickie James à la WWO, à SmackDown, pour feuder contre Becky Lynch à l'époque. Les deux se sont affrontés. Il y a eu des insultes, notamment ce côté de Biscuit Butt que disait Mickie sur Bliss. Donc voilà, du coup, elle remet ça sur la table, mais Alexa Bliss remet la chose importante en disant... Bah, de toute façon, écoute, c'est simple, hein. Pour Elimination Chamber, si en même temps il y a Absolution, donc Mandy Rose et Sonya Deville, on est morte. Et vu que d'autre côté il reste Sasha Banks et Bayley qui sont encore plus ou moins copines, eh bah, les deux là, faut qu'elles fassent un peu ami-ami. Et ce soir, donc du coup, elles ont un match. Le match en lui-même est pas terrible, on va pas se mentir, hein, clairement par rapport au Banks, Bayley, ça n'a rien à voir. Au final, on a Paige, hein, qui est toujours aux abords du ring, qui va distraire Alexa Bliss, qui est qui n'est pas en train de catcher, hein, parce que c'est Mickie James à ce moment-là qui catch, ce qui donne l'opportunité à Sonya Deville de pouvoir faire valdinguer Alexa Bliss du ring. Et tout simplement, pendant ce temps-là, Mickie James est tout simplement seule. Et Mandy Rose va donc faire un Bed of Roses, son finisher, pour la victoire donc de The Absolution. Donc voilà pour nos dames. Le match, encore une fois, à mon avis, je sais pas ce qu'on a pensé, était pas top. Mais le segment qui était avant, je trouve, était sympa, pas mal écrit, pas mal joué et cohérent.
Donc, oui, un petit poil long. Je sais pas, il y a eu un moment là où elles étaient un peu. Où Mickie James, où Alexa Bliss a dit un truc et Mickie James a un peu repris exactement la même chose. Mais sinon, non, c'était pas mal. Le match, oui, bon, il était très court. Moi, j'ai été étonné de voir que. Bon, il y a eu distraction de Sonya Deville, mais au final, il n'y a pas eu de coup porté à Mickie James. C'est vraiment Mandy Rose qui a réussi à placer son finisher. Donc, elles sont les deux de l'absolution. Bah, maintenant que Paige est. Et out, elles sont bookées, c'est pas des rookies qui ont besoin de. Elles arrivent à se débrouiller, donc histoire de voir ce que ça va donner dans la chambre. Moi, je suis assez hypé pour le moment pour ce match en cage.
Ouais, ça peut bien donner. Moi, je suis toujours un peu sceptique sur Mandy Rose, même si pas mal de gens en backstage en disaient beaucoup de bien. Sonya Deville, je suis beaucoup plus confiant parce que j'aime bien l'intensité qu'elle a et son moveset. Hein. Je trouve qu'il est assez original. Hein. Donc, on verra bien. Mais dans tous les cas, avec ces deux de l'absolution, Bliss qui essaie de refaire copine-copine avec Mickie James pour sauver ses miches et sa ceinture, et d'autre côté, cet élément combustible entre Sasha Banks et Bayley, ma foi, c'est pas mal fait, on va pas se plaindre hein, parce qu'on a eu des mois de disette horrible chez les dames l'année dernière, donc là pour l'instant je trouve que depuis quelques semaines vraiment très 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 bonnes idées et écriture plutôt positive pour la suite. On avance, on revient à ces messieurs, on revient au Shield hein, puisqu'on a Seth Rollins en backstage avec Roman Reigns, donc les deux blagues un petit peu de mur potache hein, Reigns qui parle du fait que Rollins ait réussi à s'incruster dans le Fatal 5-Way maintenant du soir, voilà, et que Reigns, c'est pas grave hein, Reigns l'éliminera de la chambre comme il l'a éliminé pendant Rumble. Et ils y rigolent bien les deux jusqu'au moment où The Bar arrive, donc Sheamus et Cesaro, qui commencent à un peu taunter leurs adversaires jusqu'à ce que Reigns fasse une blague très mature, un peu John Cena-esque sur la dentition de Cesaro qui est toujours en reconstruction, puisque là maintenant il a un appareil dentaire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah bah ouais, tu t'es cogné dans le bouclier, hein, tu as été cogné dans le shield. Et puis ce sera au tour de Sheamus ce soir, puisqu'il y aura un match Roman Reigns contre Sheamus. Et à la fin, Rollins qui fera un petit commentaire sur les kilts de The Bar en disant « Jolie jupe, messieurs ». Bref, voilà, un humour toujours très mature hein, pour le Big Dog et son acolyte. Donc on aura ce match un peu plus tard. Avant ça, on a quand même un segment assez savoureux puisqu'on a Elias qui va jouer et chanter le blues de l'Elimination Chamber. Donc Elias qui rentrera en dernier, hein, comme on le disait, dans le match. Donc il est là ce soir pour chanter le blues donc d'Elimination Chamber. Donc il n'est pas très bien reçu par le public. Hein. Il dit quand même plus de se calmer. C'est pas parce qu'ils viennent de Californie où c'est que des villes toxiques qu'il faut se comporter comme ça. Il a un truc à chanter. Donc voilà, il chante son blues où à chaque fois il va démonter un peu ses adversaires en disant que le Big Dog ne va pas gagner parce que personne ne croit en lui. Le Miz devrait... en rester au Miss TV, hein, toutes les chansons qu'Elias a écrites pour le Miz avant n'étaient pas pour lui, mais c'était pour Maryse. Et pour John Cena, ben, il peut rester chez lui parce que le futur, c'est lui, c'est Elias. Il commence à chanter à propos de Braun Strowman quand Elias est interrompu par Jojo qui annonce ben justement Braun Strowman. Et là, il y a un projecteur qui s'illumine donc sur la rampe en dessous de Titantron où on voit Braun Strowman sur un tabouret avec une énorme contrebasse dans les mains, parodiant la guitare du coup de Elias, mais version XXL, hein, version monstre. Et Braun Strowman qui commence à jouer de la contrebasse comme d'une guitare en chantant. Donc il tapote sur les cordes jusqu'à ce qu'elles cassent. Il ne reste plus qu'une seule corde en place. Et voilà, Strowman qui chante que bah, il n'en a pas fini avec Elias. Elias va get these hands. La foule est en feu. Tout le monde adore ça. Et il dit que bah, puisqu'il a cassé toutes les cordes, il ne reste plus qu'une seule corde sur cette contrebasse. Il ne peut plus en jouer. Donc il n'y a plus qu'une seule utilisation potable de cet instrument. Il prend la contrebasse sur ses épaules, va jusqu'au ring. Bien sûr, Elias essaie de le dissuader, mais au final, ça finira, vous en avez deviné, et bien Braun Strowman va éclater la contrebasse sur le dos d'Elias, avec du coup une foule d'arbitres qui viennent aider Elias, qui est complètement KO après ce coup, et un public en folie. Alors, est-ce que toi aussi tu marques comme un malade, Raph, avec ce Braun Strowman face un peu à la Stone Cold, qui fait ce qu'il veut, qui détruit ce qu'il veut?
Je marque comme un malade, peut-être pas jusque là, mais ouais, c'était vachement drôle. Je trouve qu'ils ont très bien utilisé là ce qui se passe souvent quand on a déjà une Elimination Chamber à peu près bookée, c'est-à-dire des interactions entre les différents mecs, mais sans vraiment lancer des feuds individuels. Donc c'était hyper drôle, moi je trouvais ça super marrant. Strowman, il avait vraiment l'air de s'amuser dans ce moment-là, que ce soit en chantant, en jouant de la contrebasse ou je sais pas ce que c'était.
Ouais, c'est contrebasse.
Ouais, c'est de la contrebasse. Et je trouve qu'Elias c'est vraiment bon dans le fait qu'il peut à la fois être un personnage assez crédible en main event, et il sait être sérieux et méchant, et en même temps là pour jouer la comédie, pour se faire ridiculiser, pour se faire prendre la guitare sur la gueule, il est aussi bon aussi. Donc très bon segment des deux, et voilà, petite touche avant les Elimination Chamber, donc bon moment. Moi, j'ai bien aimé.
Ouais, non, c'est clair que là, il y a Braun Strowman, c'est assez fou de voir à quel point il devient de façon organique super over avec le public de semaine en semaine. Hein. Et vraiment pour ça, je le comparais un petit peu à Stone Cold. C'est que Stone Cold, ce qui a fait que c'est un catcheur qui reste dans la mémoire, c'est que c'est quelqu'un qui faisait des trucs clairement pas cool, pas moralement cool, on va dire, qui agresse des gens, qui casse des trucs, qui enfreint les règles, qui enfreint les lois, etc. Mais il le fait tellement bien, et c'est tellement bien vendu aussi par ceux qui se prennent tout ça, que le public ne peut pas rejeter ses actions comme étant mauvaises, néfastes, ou celles d'un heel, et l'embrasse comme si c'était un face, quoi. Et c'est vraiment le côté organique que Strowman est en train de faire. Et ça marche bien, et c'est toujours, moi ça me fait toujours rigoler de voir les difficultés qu'ils ont à monter un face corporate et qu'ils le veulent, Roman Reigns, et d'année en année où ils essaient d'arranger, de polir son image, etc. Alors qu'en faisant pas grand chose de forcé, justement de manière organique, il y a un face qui est crédible, qui pourrait avoir le titre universel ou le titre de WWE, et personne ne trouvait quelque chose à redire, Braun Strowman, quoi. C'est voilà.
Mais ça sera peut-être un peu la rivalité de ces prochaines années, comme The Rock et Steve Austin et tout ça. Mais et puis avec Braun Strowman, ce qu'ils ont comme atout énorme, c'est qu'ils lui font faire des trucs qu'on n'a jamais vu et que personne d'autre fait, que ce soit les histoires du grappin. Là, ils arrivent toujours avec cette contrebasse à trouver des gags très visuels à base de sa taille et tout.
Ouais.
Donc c'est bien. Je sais pas qui s'occupe de scénariser tout ça, mais c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, donc après, on en reparlera dans les semaines à venir. Tous ces mecs-là vont se retrouver sûrement sans programme au lendemain de l'Elimination Chamber. On verra ce que ça nous donnera pour WrestleMania. Mais pour le moment, c'est rigolo, on savoure.
Yep, on savoure comme tu dis. Alors ensuite, est-ce qu'on a savouré la suite? C'est le match donc Sheamus, hein, contre Roman Reigns, donc avec Cesaro bien sûr aux abords du ring. Un match ben, finalement un peu comme booké, j'ai l'impression, comme l'a été, hein, j'en parlais, le Cena Miz, à savoir que c'est Roman Reigns qui gagne à la fin, clean, avec son spear. Sheamus sera relevé de son du Superman Punch, hein. Donc voilà, c'est encore une fois assez disputé, mais la fin est assez connue. On sait qu'à chaque fois, les adversaires de Roman Reigns se relèveront du Spearman Punch, mais ne se relèveront pas du Spear. Et par contre, Roman Reigns, lui, se relèvera du finisher, son adversaire. Donc un match qui était pas mal, hein, encore une fois. Hein, je veux dire. Mais j'ai l'impression de revoir là, un peu toutes les semaines, les mêmes matchs de Roman Reigns maintenant, ou la même structure tout du moins. J'ai l'impression que c'est la même que celui de John Cena aussi qu'on a vu. Donc ça fait des matchs qui sont pas mal, mais qui manquent peut-être d'éléments surprise. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas du tout?
Oui, clairement. Bah, de toute façon, Roman Reigns, c'est, oui, c'est effectivement, on a déjà parlé, le nouveau John Cena. Donc en gros, bah, il gagne. Ou alors, s'il perd, c'est qu'il vraiment, il s'est passé un truc de ouf. C'est un peu dommageable, je trouve, pour l'intrigue, parce que du coup, il a toujours ce côté... Enfin, c'est dommageable, oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, il est tellement fort, on se dit ses adversaires, pour le battre, il va falloir qu'il trouve un truc, et c'est ce qu'on fait parfois bah, les Kevin Owens ou les Braun Strowman. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il paraît tellement dominateur que du coup, sa victoire n'est plus jamais une surprise. Quoi. Donc là, j'aurais bien aimé voir effectivement Cesaro réussir à le distraire un peu et Sheamus qui gagnait sur un coup de... mais sinon, bon match. Moi, j'ai vraiment bien aimé l'intensité de Sheamus. D'ailleurs, je crois que c'est Michael Cole pendant le match qui a dit que Sheamus était sûrement une des superstars les plus sous-estimées, les plus underrated. Et c'est vrai que... Ben, on le dit souvent, mais ce mec est très très bon et il a tout gagné et pourtant il reste toujours un peu dans ce statut sous les main eventers, sous les légendes. Là, je pense que par contre, ce qui est intéressant, je pense que ben, Jason Jordan est out, Reigns a gagné bon, un match de gala, Seth Rollins part vers le solo aussi. Donc on a clairement tourné une page pour The Bar et maintenant ça va être intéressant de voir. Pour le moment ils n'ont pas de programme pour l'Elimination Chamber.
Non.
Est-ce que c'est assez? Est-ce que Revival ou Gallows et Anderson sont prêts?
Oui, je pense. La suite logique, ça serait ça. Hein. Ça serait effectivement d'avoir un first contender qui se décidait entre ces deux-là. Je vois pas d'autres équipes aujourd'hui dans le main roster à Raw qui pourraient se targuer de dire ouais, on a un shot. Il y a qui d'autre? Heath Slater et Rhino, mais je les vois pas du tout dans le truc. Donc là, ça serait logique d'aller au bout de cette rivalité entre le The Bar et Revival, Anderson, Gallows et Revival, et de voir qui ressort du lot pour un match contre The Bar. Ou une triple frite à voir, je sais pas.
Bah en tout cas, ça fait un peu court peut-être pour l'Elimination Chamber qui est dans deux semaines, donc peut-être que je sais pas, on verra.
Après, il y a aussi le fait que ça, j'ai pas de nouvelles hein, sur la blessure de Sheamus. On a annoncé il y a quelques semaines, moi, que Sheamus était blessé à la nuque ou au cou de façon assez importante. Est-ce que ça serait pas un bon moment aussi de donner un peu de souffle, un peu de repos à Sheamus et de dire ok, à l'Elimination Chamber, il y aura un match par équipe pour déterminer le first contender et le gagnant du match à l'Elimination Chamber aura un match de titre contre The Bar. Comme ça, Sheamus et Cesaro sont un peu tranquilles pour Elimination Chamber. Sheamus n'a pas peut-être un moins catché, peut-être fait de la rééducation, j'en sais rien. Et dans tous les cas, ça donnerait du temps pour qu'au moins à Mania, on ait un match pour les titres avec un adversaire, une équipe adverse qui soit méritante. Donc on peut faire effectivement Elimination Chamber, un triple threat, Isetor, Rhino, Revival et Anderson Gallows par exemple. Hein, peut-être d'autres équipes, je ne sais plus qui y a dans le roster là de mémoire.
Tu oublies Titus Worldwide.
Et Titus Worldwide par exemple.
Worldwide.
Hein. Exactement. Mais ça peut le faire. Hein.
Ouais, ça peut le faire.
Fatal 4-Way Elimination Match Tag Team pour le First Contender et un match à Mania. Moi j'achète. Hein.
Oui. Ouais, moi aussi. Ça reste un grand mystère cette histoire de Sheamus parce que bon, quand on voit le match qu'il délivre là contre Reigns, il n'a pas l'air très protégé le mec.
Non, c'est donc ça. C'est... Quand tu vois le spear qui se prend à la fin, le spear, ouais. il est stiff, mon dieu. Ouais, c'est ça. Et chaque fois, tu te dis, mais il faut faire attention là, ce que vous faites avec Sheamus s'il est vraiment blessé. Alors,
après, je sais pas. A priori, je sais pas. Moi, j'ai pas trop suivi. Il aurait lui-même tweeté ou je sais pas quoi que c'était pas si grave que ça. Mais bon,
bah,
c'est jamais.
Mais bon, qu'il fasse gaffe quand même.
Ouais, ça flotte dans l'air.
Ouais, ah ouais. On a ensuite un petit package vidéo pour nous annoncer le nouvel entrant au Hall of Fame 2018. Hein, une entrante, hein, puisque là c'est la superstar féminine de cette promotion 2018, ce sera Ivory. Donc on a une petite vidéo recap, notamment Ivory qui a fait partie des Glorious Ladies of Wrestling. Hein, donc GLOW, comme a eu la série éponyme sur Netflix, et bien la promotion originale de GLOW, Ivory en a fait partie. Donc voilà, bienvenue à elle dans le Hall of Fame 2018. 2018. Et ensuite, on passe tout simplement eh bien, au gros morceau, au gros show, le main event de la soirée, donc un Fatal 5-Way pour le dernier spot dans l'Elimination Chamber match. Bray Wyatt versus Matt Hardy versus Apollo Fucking Crews versus Finn Balor versus Seth Rollins. Donc forcément, un match à 5 gros bordel où à mon nez, chacun placera son finisher. On peut souligner une prestation plutôt pas mal d'Apollo Crews qui aura une séquence où il va enchaîner effectivement des coups assez, assez dynamiques sur ses adversaires. Malheureusement toujours pour des comptes de 2 parce que Apollo can't lose mais il peut pas gagner non plus, ça c'est clair. Hein. Au final, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a Matt Hardy qui voudra faire un side effect depuis les cordes sur Apollo Crews, justement, mais Bray Wyatt va le choper, va le descendre hors du ring et lui mettre un Sister Abigail. Bray Wyatt qui va revenir au niveau d'Apollo Crews pour faire un superplex, mais il y a Rollins et Baylor qui font un powerbomb sur Wyatt pour faire une Tower of Doom tonitruante. Et les deux, Rollins et Baylor, gardent en fait hein, une jambe chacun de Bray Wyatt pour le tomber. L'arbitre compte. 1, 2, 3, victoire. De qui ? Justement, on ne sait pas, puisqu'au moment donné où l'arbitre a tapé 3, eh bien, et Seth Rollins et Finn Balor étaient en position de pouvoir faire le tomber sur Bray Wyatt. Donc, on finit sur les deux qui se regardent avec contest, hein, chacun pensant avoir gagné sur l'autre. Et cette question, qui va être le dernier participant de ce Elimination Chamber match, Finn Balor ou Seth Rollins ? Bien entendu, on peut s'imaginer que la semaine prochaine, on aura un match de fou entre les deux, puisque rappelez-vous, c'était le main event de SummerSlam de je sais plus quelle année, pour le premier sacre de cette ceinture universelle hein, que Finn Balor avait gagné. Est-ce que ça sera la même chose ? On ne sait pas. Toi, ton avis sur ce match et sur le pronostic de la semaine prochaine ? Qui est-ce que tu aimerais voir dans les Elimination Chamber match, plus Finn Balor ou plus Seth Rollins ?
Ah, très bonne question. Sur le main event, moi j'ai mitigé. J'ai bien aimé certains spots. J'ai trouvé, comme tu as dit, qu'à des moments ça faisait vraiment très bordel, c'était pas très lisible. Est-ce que c'est vraiment une inclusion tardive de Seth Rollins qui a un peu compliqué la scénarisation ? Je sais pas, c'était un peu cafou. J'ai bien aimé la performance d'Apollo Crews. J'ai trouvé que Matt Hardy et Bray Wyatt ralentissaient un peu le match, hein. C'était pas très, c'était pas terrible. Le finisher, une drôle de décision. Alors c'est rigolo parce qu'on n'a pas ça tous les jours, c'est sûr. Après, je suis toujours un peu circonspect devant ces fins de Raw où ton ordi t'annonce la fin de l'épisode et puis tu sais pas trop. Il y a personne. Pourtant, Kurt Angle est très prompt en général à prendre le micro. On verra. Il y a quelques rumeurs sur internet comme quoi du coup ils mettent les deux dans la chamber et ça commence par un triple threat et ils sont 7. C'est possible. Techniquement, je sais pas si j'y crois, je sais pas si j'ai envie. Non, j'ai plutôt envie de suivre ton idée. Moi, j'ai envie de les voir la semaine prochaine, Rollins versus Balor.
Ça paraît évident qu'ils vont faire un match pour déterminer ça. Ouais. Ou alors, faudrait encore une fois un no contest ou une décision à la con pour qu'ils se disent ok, on les met les deux dans la chambre. Et pourquoi pas les deux dans le même pod.
Ça serait drôle. Mais ils rentreraient, ils sont pas très gros. Le seul problème que je vois, c'est que les deux sont sur une dynamique assez positive, un peu pushée, et du coup l'un des deux qui perdrait clean la semaine prochaine, ça serait un peu handicapant. Mais en fait, à tout bien réfléchir, être ou pas dans la chambre, on s'en fout un peu. Enfin, je veux dire, tu vois, on se souvient que Bray Wyatt a gagné l'an dernier. Qui se souvient exactement qui y avait dans cette chambre ?
C'est
on
ça,
oublie assez vite, quoi.
Il y avait John Cena, il y avait Jay Styles, Orton aussi, je crois. Bref, on s'en fout un peu, mais oui.
Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on oublie très vite si c'est pas le gagnant.
Ouais. Bon. Le problème, en fait, pour répondre à la question que je te posais, même pour moi, c'est qu'en fait, au final, on s'en fout, mais on sait que cette personne-là ne gagnera pas l'Elimination Chamber match. Puisque c'est à peu près couru et sûr que ça soit Roman Reigns qui la gagne. Alors, du coup, on se dit, ok, la personne qui va l'Elimination Chamber match là, entre Baylor ou Seth Rollins, dans tous les cas, va se trouver un peu le bec dans l'eau dans Mania, donc du coup, enfin pour Mania. Donc, entre les deux, Baylor, Rollins, assez compliqué effectivement d'en choisir un. On a Guillaume sur le chat avec Koala qu'on salue, Guillaume qui veut Apollo Crews. Ben non, Apollo Crews, il sera pas dans l'Elimination Chamber match, ça c'est une certitude. Pour le momentum, moi j'ai quand même envie que ça soit Finn Balor qui gagne, et qui aille dans la Elimination Chamber match, soit Seth Rollins qui gagne, mais encore une fois qu'on emphase sur la réalisation du match sur Finn Balor qui a perdu, comme ils ont fait après son match contre Cena et contre je ne sais plus qui d'ailleurs il y a quelques semaines. On avait ça, Finn Balor qui est là, et qu'on continue à paver un peu le moment où il dit ok, ça suffit les gars, ça fait chier, Balor Club c'est pour de vrai, et on retrouve un peu le Prince David du Bullet Club original, et qu'on aille plus en avant sur le heel turn de Balor. Mais je sais pas, c'est compliqué.
Bah, effectivement, tu as soulevé le problème. Alors on va pas dire que les dés sont jetés, mais c'est vrai qu'avec un Brock Lesnar à aller chercher en haut de la montagne, ça fait un peu chier tout le monde, mais on sent venir le coup gros comme une maison de Roman Reigns. Donc effectivement, du coup, est-ce que... Le problème, c'est que après, très souvent, les mecs qui sont dans la chambre, il va y avoir des feuds qui vont se créer pour Mania. N'oublions pas qu'il y a le Miz dans la chambre. On a longtemps imaginé que ça allait être Baylor et le club, un peu contre le Miz et le Miz-Tourage pour le titre intercontinental. Mais finalement, Rollins repart en solo et ça ferait aussi un bon champion intercontinental. John Cena, on ne sait pas trop. Il était plus ou moins en train de se disputer contre Elias, mais ça a l'air passé. Tu as oublié de dire en introduction aussi qu'il nous a fait un espèce de gros clin d'œil en nous disant à WrestleMania, parfois, même des légendes reviennent d'entre les morts.
Oui.
Certains y voient un retour de l'Undertaker. Non. Certains souhaitent même un retour de l'Undertaker.
Didit.
Bon, balancer Giscal qui souhaite voir son Undertaker contre John Cena. Mais nous, non.
Horrible.
Donc je me demandais si finalement le meilleur match contre Cena, ça serait pas un petit Cena Braun Strowman et puis Braun Strowman qui gagne, histoire de bien installer le monstre, et puis ben Cena il a plus rien à gagner, donc
Peut-être bien, effectivement. Et puis pour Rollins, tout dépend le retour de blessure de son ex-compère Dean Ambrose, mais on peut tabler peut-être pour un retour pour Mania et offrir un programme tout personnel et tout amical pour The Kingslayer. Donc c'est sur cet inconnu qui a gagné, qui sera dans la chambre d'élimination que ce Monday Night Raw se termine. Donc il est temps du mot de la fin. Donc tu connais la chanson, mon cher Raph. Un top, un flop et une note.
Alors, c'était un bel épisode de Raw. Mon top, je vais le donner au match des filles, à Bayley et Sasha Banks, que j'ai vraiment bien aimé. Mon flop, c'est la promo d'entrée de John Cena. Ça m'a rappelé l'époque où il disait qu'il se battait pour être champion contre l'autorité parce que l'autorité ne voulait pas de lui. Enfin, c'est le poster boy depuis des années qui ne nous fasse pas croire qu'il doit gagner l'Elimination Chamber pour avoir un match à WrestleMania. Donc, ça ne m'a pas trop plu. Je trouvais ça un peu nous prendre pour des cons. Mais c'était un bon Raw par ailleurs, donc je vais dire 3,5 sur 5.
Ok, 3,5 sur 5, pas mal. Moi, mon top, ça va être la promo de Seth Rollins. Je suis content de voir Seth Rollins comme ça, un peu re-hypé, re-convaincu de ce qu'il dit. On sent qu'il en veut, et je préfère voir ce personnage comme ça que un peu dans flottement comme ces dernières semaines, derniers mois. Mon flop, ça va être la promo backstage de Titus Worldwide. C'était franchement poussif, c'était pas bien écrit, tout ça pour arriver à une espèce de rime à la con, Cruz can't lose, excuse-moi quoi, mais quand tu loses tous les matchs depuis ta montée au main roster, tu peux pas sortir un truc comme ça et rester crédible, c'est pas possible quoi. À ce niveau-là, c'est du déni de la réalité, moi je ne cautionne pas ça. Et en note, je serais un peu moins je dirais que toi, je serais sur un 3, mais voilà, un 3 parce que 3 matchs quand même sympas, ce John Cena Miz, Bayley Sasha Banks et le Reigns Sheamus, quelques segments rigolos, d'autres un peu passables. Donc voilà, un bon petit 3. En tout cas, je salue encore une fois les écritures pour l'Elimination Chamber. Il nous reste encore un Raw, si je dis pas de bêtises, au moins, pour finir de booker tout ça. Ça peut être pas mal, encore une fois. Donc on verra bien. À côté de ça, on a donc Guillaume qui parle sur Elimination Chamber, qui dit qu'effectivement être dans la chambre d'élimination, c'est plus une photo de la place dans le roster qu'une promesse d'avenir s'il y a victoire, ça c'est clair. Nous sommes bien d'accord. Du coup, c'est fini pour ce catch-up. Donc, vous allez nous retrouver pour le supplément SmackDown dès demain ou vendredi. Donc, restez connectés. Dimanche, il y aura le NXT tout seul. Sur YouTube, vous nous retrouvez. Et bien sûr, si vous avez regardé cette vidéo, vous la regardez, bah, laissez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification et laisser un commentaire. Ça vous prend que 2 minutes. Et nous, ça nous fait plaisir. Et ça nous aide. On vous en remercie. Pour l'audio, c'est sur iTunes et PodCloud. Hein. Là aussi, vous pouvez tout simplement nous recommander ou dire que vous kiffez Catch Up sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Hein. Donc, c'est Catch Up CDC. Vous pouvez être sur notre Twitter, nous suivre sur notre page Facebook pour savoir exactement tout ce qui se passe dans le catch et sur Catch Up. Nous, on vous remercie énormément. Raph, un plaisir de t'avoir eu pour cette review.
Mais comme d'habitude, un plaisir de t'avoir écouté et d'avoir partagé cette analyse avec toi. Et effectivement, tu as bien raison, aidez-nous en ce jour si lié à l'amour, à diffuser l'amour du catch, notre amour pour ce noble sport. Hein. Même Roman Reigns, on l'aime bien un petit peu au fond. Hein. Même Apollo Crews, on l'aime bien un petit peu au fond.
C'est sur ces belles paroles pleines de positivisme et de guimauve qu'on vous dit à tous au revoir. Encore merci d'avoir été là et passez une excellente semaine pleine de catch. Salut. Ciao. Eh ben nickel, c'est dans la boîte. Hein.
Eh ben parfait, en moins de temps qu'il en faut pour le dé, hein, nickel.
C'est ça, bah écoute, 50 minutes, hein, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'ai pas fait trop de description de match parce que je trouve que ça prend du temps pour... souvent oui, c'est difficile à retranscrire, je dis juste les spots de fin et puis voilà. Ça
non,
paraît pas
c'est ce qu'il
mal,
faut faire, je pense.
Ouais. Ouais. Bon bah super.
Eh ben voilà, c'est dans la boîte.
Nickel, merci d'avoir été là. En tout cas, un rôle plutôt sympa. Il n'y avait pas de truc de fou, mais ouais. Je trouvais que c'était, comme je disais, pas mal écrit, quoi.
Bah du coup, comme j'avais raté la semaine dernière, il fallait se remettre un peu dedans. J'ai vu qu'il y avait eu une bonne promo d'Alexa Bliss.